Eh bien, bonjour à tous, bon dimanche. Je ne veux pas vous faire le truc de « Ah, vivement demain, c'est le déconfinement ». On le sait, hein. Marc, chapitre 16, versets 15 à 20, s'il vous plaît. On commence directement dans la parole de Dieu. Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. C'est Jésus qui vient de ressusciter, enfin, qui est ressuscité depuis quelques jours, 40 jours, et il parle à ses disciples. C'est les dernières paroles que Jésus dit sur terre avant de monter au ciel. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire de ma part, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal, ils poseront les mains sur des malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Jésus, je te prie de bénir ces paroles ce matin et que cela fasse du bien à chacun d'entre nous qui sommes là pour étudier ta parole, justement pour grandir. Merci Jésus. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous dire des choses que je n'ai pas dites depuis longtemps. Je vais revenir dessus parce que nous avons maintenant des milliers de nouvelles personnes qui viennent sur Révélation Bible. Là, par exemple, ma dernière prédication, celle de vendredi, on dépasse les 5000 et quelques personnes qui sont venues écouter. Et je voudrais enseigner ces choses qui sont très importante parce que c'est des choses que je vis et qui font toute la différence dans mon ministère, dans ma vie. Et je voudrais vraiment que vous sachiez ces choses-là et que vous ne soyez pas obligé d'aller chercher loin dans Révélation Bible dans les années, je sais pas quoi, 1800 et quelques. Voilà, je vais donc vous enseigner des choses que j'ai déjà prêchées, mais il y a longtemps. Vous savez, j'ai vu des milliers de miracles se produire dans plus de 70 pays lors de mes réunions. J'ai prêché devant des foules, j'ai prêché en tête à tête, j'ai prêché dans des endroits les plus saugrenus du monde, en pleine brousse, devant des centaines et des milliers de personnes. J'ai vu des guérisons extraordinaires. Et certains pensent que c'est quelque chose de particulier. Que les miracles ne peuvent pas arriver ainsi à tous les croyants. Pourtant, Jésus dit, et on vient de le lire, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, si Jésus le dit, alors beaucoup de gens croient en Jésus, mais ne croient pas Jésus. Moi, je crois Jésus. Donc je crois que les miracles ne sont pas réservés à une certaine catégorie de personnes qui ont un ministère spécial. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors je sais que vous croyez, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous ne chassez pas des démons tous les jours? Pourquoi est-ce que vous n'imposez pas les mots malades tous les jours pour les en vue de leur guérison? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des miracles comme ça? Pourquoi? Mes frères et sœurs, des miracles vont se produire pour vous lorsque vous vous mettrez à vous servir de la puissance qui agit en vous. Quelle puissance? Quand je pose la question aux chrétiens, ils sont tellement spirituels qu'ils me disent, en général, c'est la puissance du Saint-Esprit. Eh bien non, mes frères et sœurs, on ne se sert pas de la puissance du Saint-Esprit, on est serviteur du Saint-Esprit, c'est très différent. Le Saint-Esprit est une puissance qui est en nous, c'est vrai, mais qui se manifeste au travers de nous. Je vais vous expliquer comme il faut, je vais prendre les choses bien clairement. Nous ne pouvons pas nous servir de Dieu, ni de la puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Vous savez, j'ai eu l'immense bénédiction de me convertir avec un homme de Dieu qui avait des miracles extraordinaires tous les soirs dans toutes ses réunions. Mais ce n'était pas des petits... C'était des paralytiques qui marchaient, des aveugles qui voyaient, des sourds qui entendaient, des muets qui parlaient, des boues, des tumeurs cancéreuses qui disparaissaient. Ça, c'était Raphaël Duval, le gitan. J'ai eu cette immense bénédiction de rencontrer cet homme, d'aller dans une de ses réunions et d'assister à tout ça, de voir tout ça. Et puis j'ai aussi eu le privilège immense de rencontrer T.L. Osborne, qui manifestait la même puissance dans ces réunions. Il n'y avait pas de réunion où il ne se passait rien. Je me rappelle toujours quand Frère Osborne montait sur l'estrade, il y avait des foules, des fois c'était 200 000, 300 000 personnes. Il montait sur l'estrade avec le sourire parce qu'il savait que quelque chose allait se passer à chaque fois. La puissance de Dieu se manifeste au travers de ceux qui croient Jésus, pas au travers de ceux qui croient en Jésus. Bien sûr qu'il faut croire en Jésus, mais il faut croire Jésus, c'est-à-dire ce qu'il dit. Alors j'ai beaucoup regardé comment il faisait. J'ai beaucoup regardé comment Raphaël faisait au début, puis après quand j'ai connu Osborne, j'ai beaucoup regardé comment il faisait Osborne. Et puis j'ai beaucoup parlé avec eux, vraiment beaucoup. Et j'ai beaucoup appris parce que j'ai beaucoup écouté. J'ai écouté. Vous savez, on dit toujours, il y a 10 commandements, moi je dis non, il y en a 11. Le premier c'est écoute, ô Israël, écoute. Et j'ai beaucoup écouté ces hommes de Dieu. Pourquoi est-ce que je vais aller écouter des gens qui parlent de miracles et qui n'en ont jamais dans leur vie? Ils ont des doctrines, mais ils n'ont pas de réalité dans leur vie. J'ai voulu écouter ceux qui avaient les miracles, ceux qui réussissaient, ceux qui manifestaient ce que Jésus dit que tout croyant doit manifester. Et le but de ce message de ce matin, c'est que vous entendiez ces choses qui sont écrites dans la Bible, mais qui ne sont pas enseignées et que les gens ne voient pas forcément. Je suis sûr que vous avez déjà lu ça, vous avez déjà vu ça, mais ça vous a passé comme ça, vous n'avez pas fait attention. Raphaël et Osborne m'ont enseigné ces choses parce que je leur posais sans cesse des questions. Et j'écoutais leur enseignement, j'écoutais ce qu'ils disaient. Je vais illustrer ce que je vais vous dire, l'enseignement qu'ils m'ont donné, en vous lisant un verset. Si ce verset ne vous suffit pas, alors ça ne sert à rien que je vous enseigne encore d'autres choses. Je vais vous montrer dans un texte qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 3, verset 20. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, donc c'est Éphésiens chapitre 3, verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. » Amen. Ça, là, c'est là qu'il y a le secret. C'est pas un secret puisqu'il est là, mais beaucoup de gens ne le voient pas. Est-ce que vous avez bien écouté ce que j'ai lu? Ben, je suis sûr que non. Je suis presque sûr que non. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu, à celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alors je vous le dis, Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que vous priez ou pensez sans la puissance qui agit en vous. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai écouté. Et voilà pourquoi le Seigneur a béni mon ministère jusqu'à ce jour avec des miracles extraordinaires. Parce que j'ai bien écouté. La puissance qui est en vous. Dans la Bible King James, c'est-à-dire elle est considérée dans le monde anglophone comme la meilleure Bible, et c'est vrai que c'est une excellente version, c'est écrit comme ça. Il y a maintenant une version King James qui a été traduite en français. Et c'est écrit comme ça. Maintenant, à celui qui est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous, à lui soit la gloire. C'est quoi ce pouvoir ? Dieu agit selon le pouvoir qui agit en nous. Et ce pouvoir, c'est pas Dieu, c'est pas le pouvoir de Dieu, c'est pas le pouvoir du Saint-Esprit. Parce que si c'était le pouvoir de Dieu, si c'était la puissance du Saint-Esprit, ça serait écrit à Dieu qui peut faire par la puissance de Dieu qui agit en vous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Or, ce n'est pas écrit ça. Ce n'est pas écrit « Dieu peut faire au travers de la puissance de Dieu ». Non, c'est écrit « Dieu peut faire au travers de la puissance qui agit en vous ». C'est quoi cette puissance ? Mes frères et sœurs, vous avez des tas de puissances en vous. Vous avez de la puissance de persuasion. Quand vous voulez persuader quelqu'un, vous avez une puissance pour persuader les gens. Vous avez une puissance musculaire, vous avez une puissance sexuelle, vous avez toutes sortes de puissances en vous, que vous utilisez ou pas. Toutes sortes de puissances agissent en vous, au travers de vous, mais il y en a une que les chrétiens n'utilisent presque jamais, et pourtant elle est citée dans le texte que je vous ai lu. C'est pas la puissance de la prière. Tous les chrétiens prient, mais pourquoi il y a si peu d'exaucement ? La puissance qui agit en vous, mes frères et sœurs, c'est la puissance de votre pensée. Dieu va faire au-delà de ce que vous demandez et pensez. Mais beaucoup de chrétiens prient sans penser. Vous ne pensez pas sérieusement à ce que vous voulez recevoir. Vous priez pour que Dieu fasse, pour que Dieu vous donne ce que vous demandez. Mais vous n'avez pas élaboré avant de prier soigneusement ce que vous voulez dans votre pensée. Et souvenez-vous que Dieu peut faire par cette puissance au-delà de ce que vous demandez et pensez. J'assiste, de moins en moins, parce que ça me barbe, mais j'assiste de temps en temps à des réunions évangéliques, et qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois le bon pasteur qui prêche, plus ou moins bien, sur un sujet ou un autre, et à la fin de sa prédication, comme s'il s'agissait d'une tradition, il prie pour les malades et il se passe généralement rien. C'est pas comme ça que ça se passe ? Oui. Or, j'ai bien regardé Raphaël et j'ai bien regardé frère Osborne qui avait des miracles de guérison dans chacune de leurs réunions. Eh bien, eux, ils prenaient le temps à chaque fois, avant de prier pour les malades, de remplir la pensée des gens avec des paroles bibliques qui concernaient la guérison. La foi des gens augmentait pendant que Raphaël ou Osborne parlaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, Raphaël et Osborne, en parlant ? Ils ensemençaient la pensée des gens avec des semences, miracles, de la parole qui est incorruptible, la parole de Dieu incorruptible, mais au sujet de la guérison, parce que vous récoltez ce que vous semez, et il semait dans la pensée des gens des pensées de guérison, des promesses de guérison qu'on trouve dans la Bible, il les enseignait, ils ensemençaient leurs pensées. Et quand il arrivait le moment de prier pour les malades, les gens avaient dans leur pensée tout ce qu'il fallait pour que la prière soit exaucée. Parce qu'il y avait la pensée dedans. Parce que leur pensée avait été nourrie. Prier et penser. Pas seulement prier. Qu'est-ce que vous voulez demander dans votre prière ? On va prendre deux exemples. Vous êtes au chômage. Vous n'êtes peut-être pas au chômage, mais je donne un exemple. Vous êtes au chômage. Pensez à ce que Dieu dit à ce sujet. Il dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Pas en vous envoyant des billets de banque qui tombent du ciel, mais au travers de votre travail. Alors, vous pensez à ces textes qui parlent que Dieu pourvoit, que Dieu veut vous donner tout ce dont vous avez besoin, et puis vous pensez, je vais vous lire une autre version, il y a une version qui est fantastique, c'est la version de la parole vivante d'Alfred Kuhn, voilà comment il traduit le texte. À celui qui, par la puissance qui agit en vous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations jusqu'au temps infini du monde à venir. Alors après avoir nourri votre pensée avec des promesses de Dieu, eh bien vous pensez à ce qui va se produire. Vous pensez, vous vous imaginez, comme Alfred Kuhn dit, osez imaginer, imaginez-vous face à un patron pour avoir un boulot, imaginez le patron qui vous écoute et qui vous dit, écoutez, vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin. Imaginez-le, mais au point de ressentir la joie. Imaginez, pensez, imaginez qu'il vous tend le contrat, ressentez l'effet que ça vous fait de prendre ces feuilles, imaginez qu'il vous tend une plume parce que vous avez oublié de prendre un stylo, imaginez que vous êtes en train de prendre la plume du patron et que vous êtes en train de signer le contrat, imaginez et ressentez et entendez même le bruit que ça fait quand vous signez. Remplissez votre pensée avec toutes ces choses. Et puis pensez que, après que vous ayez signé, ce patron se lève, vous vous levez aussi, vous vous saluez tous les deux, vous êtes heureux tous les deux, et vous vous serrez la main, lui il est heureux parce qu'il a trouvé quelqu'un dont il a besoin, et vous avez trouvé le boulot dont vous avez besoin. Pensez-y, remplissez votre pensée de cela, et Dieu dit, je vais aller au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Mais il ne peut pas aller au-delà de ce que tu penses pas. Peut-être avez-vous besoin d'une voiture. C'est le deuxième exemple. Peut-être vous n'en avez pas besoin. Mais peut-être vous avez besoin d'une voiture. Alors, surtout ne priez pas comme ça. « Oh Seigneur Dieu, Tout-Puissant Éternel, je te prie de me donner une voiture. Tu vois combien j'en ai besoin. Et je crois de tout mon cœur que tu vas pourvoir. » Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Ne priez pas comme ça. Jamais. D'abord, il faut penser. Quelle sorte de voiture vous voulez que Dieu vous donne? Dieu va aller au-delà de ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va vous donner? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu veut vous donner? Une vieille bagnole toute pourrie qui va tomber en panne au boulot à la fin des vacances? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez? Pensez à, est-ce que vous pensez que Dieu va... Est-ce que vous voulez une voiture neuve? Ou une voiture qui a dans les 60 000 km? Qu'est-ce que vous voulez? Pensez-y, pensez à la couleur même de ce que vous voulez comme voiture, à la marque de la voiture. Enrichissez votre pensée le plus possible au sujet de ce que vous allez demander à Dieu. Votre pensée ne sert pas qu'à penser à des bêtises. Votre pensée doit marcher en symbiose avec vos prières. Parce que Dieu va au-delà de ce que vous demandez et pensez. Dieu fera mieux, infiniment mieux pour vous que ce que vous demandez et pensez. Alors pensez! Comment pensez? Eh bien, imaginez-vous que vous vous êtes bien habillé pour faire bonne impression et que vous allez, je ne sais pas moi, chez Mercedes. Vous n'aimez peut-être pas Mercedes, vous aimez peut-être mieux Volkswagen ou BMW ou je ne sais pas. Peu importe, c'est vous, c'est votre pensée. Et puis vous allez chez le concessionnaire et vous voyez la belle vitrine et vous voyez déjà de l'intérieur, de l'extérieur, vous voyez à l'intérieur la voiture que vous voulez. Vous poussez la porte et vous sentez l'air climatisé. Sentez-le, imaginez-le, remplissez votre pensée avec tout ça. et puis vous vous dirigez comme ça nonchalamment entre les voitures et pensez qu'il y a un beau jeune homme ou une belle jeune fille qui va venir vers vous en vous disant bonjour monsieur, bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pensez-y! Et vous dites, voilà, je voudrais voir une de vos voitures, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et il va vous dire, ben écoutez, asseyez-vous dedans, et il va ouvrir la portière. Et imaginez ça! Pensez à ça! Pensez le plaisir que vous allez sentir quand vous allez poser vos fesses dans le cuir de la belle Mercedes, ou si vous n'aimez pas le cuir, dans le beau velours, ou je ne sais pas quoi. Mais imaginez l'effet que ça va vous faire quand vous allez poser les mains sur le volant. Pensez! Dieu va aller au-delà de vos pensées. Et puis, maintenant, il n'y a plus de clé pour mettre le contact. On met simplement, on appuie sur un bouton. Alors, il vous dit, vous appuyez sur le bouton. Et puis, vous n'entendez rien. Le moteur, il ne fait pas de bruit. Pensez à ça. Waouh! Et les portes s'ouvrent du grand magasin. Le vendeur ou la vendeuse se met à côté de vous. Et puis, on va aller faire un petit tour. Et vous pensez, vous imaginez, vous êtes en train de rouler avec cette voiture. Mais pensez-y parce que Dieu va au-delà de ce que vous demandez et pensez. Si vous dites, Seigneur, donne-moi une voiture, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas suffisant. Ça peut marcher. Mais vous n'êtes pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas selon les principes bibliques. Vous n'êtes pas selon les principes qui font que la prière va être infiniment au-delà de ce que vous pensez. Voilà la puissance qui agit en vous. C'est celle de votre pensée. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous priez et pensez. C'est la prière qui est bien pensée qui est exaucée. Pas la prière vite faite, non. Moi, j'ai bien regardé Raphaël, j'ai bien regardé Osborne. Il était assis derrière sur l'estrade. Et moi, je ne regardais pas le bonhomme qui dirigeait les chants, non, 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 non. Alors, il était là, il dirigeait les chants. Alléluia! Moi, je regardais Osborne. Comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il lisait sa Bible? Qu'est-ce qu'il faisait? Je regardais Raphaël, qu'est-ce qu'il faisait? Raphaël, il regardait la foule, il regardait les gens. Osborne, il faisait pareil, il regardait les gens. Il repérait là où il y avait des gens avec une chaise roulante. Il repérait là où il y avait des gens qui avaient des béquilles. Il regardait tout ça. Il voyait la souffrance dans les yeux des gens. Il voyait l'attente dans le cœur de ces gens. Mais il voyait plus que ça. Il voyait cette personne avec ses béquilles, il la voyait déjà debout en train de marcher. Il voyait ça. Il me l'a expliqué. Ils me l'ont expliqué. Il pensait déjà à l'avance, qu'est-ce que Dieu va faire? Dans leur pensée, ils les voyaient guéris. C'est pourquoi ils osaient prêcher la guérison à fond. Ils les imaginaient marchant, sautant et louant Dieu. Et c'est pourquoi leur prière était exaucée, c'est parce que la foi sans pensée, c'est une croyance sans puissance. Je répète, la foi sans la pensée, c'est une croyance sans puissance. Vous croyez quelque chose, vous dites, oui, Jésus a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors je crois, ben, je vais prier pour les malades. Ah ben tiens, je ne pense rien, je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Du moins, je vous l'ai dit. Jésus, il nous a dit qu'il regardait la foule, il était ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il voyait leur souffrance. Mais il se réjouissait du moment où il allait se lever de la pierre sur laquelle il était assis et où il allait commencer à jeter la parole. Dans les cœurs de ces gens, il allait ensemencer le cœur de ces gens avec des pensées d'espoir, des pensées de guérison, des pensées de paix, d'amour. Et voilà que quand il priait, eh bien, les miracles se produisaient. Si vous voulez une moisson de blé, vous allez semer du blé. Si vous voulez une moisson d'orge, vous semez de l'orge. Le semeur de blé, quand il... Nous, on a, juste là devant chez nous, un peu plus loin, il y a un champ. Le semeur de blé, quand il sort pour semer son blé, vous croyez qu'il pense quoi ? À la moisson. S'il pense pas que quand il sème, il va moissonner, excusez-moi, c'est un idiot. Oui ou non ? Ils y pensent. Les gens qui travaillent dans les vignes là-bas derrière, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont... Hein, Olivier, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu attaches, tu aimantes... Pourquoi ? À quoi ils pensent ? Ils pensent à la récolte. Et pas seulement à la récolte, mais au pognon qu'il va gagner en faisant ce travail. Il faut penser. Et Dieu va au-delà de notre pensée, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Qu'est-ce que fait la femme vertueuse ? On parle tout le temps, ah, la femme vertueuse. Et puis alors, on est tout content. Mais écoutez bien ce qui nous est dit au sujet de la femme vertueuse. On va lire dans Proverbes, chapitre 31, verset 10. Écoutez bien. Qui trouvera une femme de valeur ou une femme vertueuse ? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Voilà, moi j'ai trouvé une femme vertueuse. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ. Elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file même la laine et tisse elle-même ses habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits de fin lin et de pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Et elle rit en pensant à l'avenir. C'est une femme organisée, c'est une femme qui pense. Je me dis, c'est pas spirituel ce que tu nous dis ce matin. D'accord, c'est pas spirituel. Allez écouter un autre prédicateur et puis continuez votre vie. C'est si spirituel que ça. Hein? Que fait une femme vertueuse ? Elle pense, elle ne fait pas les choses au hasard. Elle investit en pensant, voilà, je vais acheter ce champ, et puis après, je donne des ordres pour qu'on en semence, et puis avec l'argent que je vais gagner, je vais acheter ci, je vais acheter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous allez me dire, oui, mais imbécile que tu sais même pas que cette nuit, l'Éternel te reprendra. Oui, écoutez, alors bon, voilà, ça va, vous êtes négatif, bon, vous êtes négatif, point barre. Là, je suis en train de vous parler... À vous qui êtes des vrais chrétiens, qui aimez Dieu et qui aimez les gens et qui voulez le meilleur. Dieu veut le meilleur, il veut au-delà même de ce que vous demandez, de ce que vous pensez. Si vous pensez négatif, attention, vous allez avoir du négatif. Mais si vous pensez positif, si vous pensez des bonnes choses qui élèvent, qui font du bien, elle, quand elle a acheté son champ, ensuite elle l'a fait ensemencer, ensuite elle a eu sa récolte, elle a vu que c'était bon d'avoir cette récolte. D'avoir tout ce pognon, elle pouvait faire des bonnes choses avec. Oui ou non ? Elle était intelligente, prévoyante et travailleuse. Elle remettait son sort à l'Éternel, mais elle pensait à ce qu'elle voulait. Elle disait pas, Seigneur, je remets mon sort à l'Éternel. Amen. Bon, maintenant, il y a The Voice à la télé. Le Seigneur s'occupe de mon sort, qu'est-ce que j'ai demandé ? Moi, je regarde The Voice à la télé. Non. On ne peut pas dire que vous parlez des œuvres, mais c'est pour vous ridiculiser un peu la chose. Elle remet son sort à l'Éternel, mais elle pense à ce qu'elle veut et elle fait ce qu'il faut pour se donner toutes les chances d'obtenir ce à quoi elle a pensé. Et elle travaille. Prière, pensée, travail. Il y en a qui disent, oh, moi je vais donner ma dîme, mais je n'ai rien reçu en retour. Parce qu'il te manque quelque chose dans ton enseignement. Écoute ce que je te dis et tu vas comprendre. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il ne bénit pas nos prières. Il ne bénit pas nos prières. Il bénit l'œuvre de nos mains. Deutéronome 15, 10. Ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Tu ne fous rien, il ne te bénit pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il bénisse? Rien. Si tu fais rien, tu veux qu'il bénisse quoi? Bénir rien, ça donne du rien. Mais je vous pose une question. Ton Dieu te bénira dans toutes tes entreprises. Mais qui entreprend quelque chose sans y avoir pensé d'abord? La pensée, c'est une puissance. Psaume 90, verset 17. Oui, affermis l'ouvrage de tes mains. Mais qui c'est qui œuvre avec ses mains sans y avoir pensé? Là, en ce moment, on est en train de se faire construire une piscine, là. Magnifique. Et j'ai regardé les ouvriers. Ils ont fait des plans, ils y ont pensé. Ils sont pas venus qu'une pelleteuse en disant, bon, on va faire un trou, sans réfléchir où, quelle profondeur. Hein? Ils n'ont pas dit, bon, on va couler le béton. Oups, mince, on aurait dû mettre la ferraille d'abord, on n'a pas pensé. Non, ils pensent à ce qu'ils font d'abord, puis ils le font après. Donc, il affermira l'œuvre de tes mains, oui, mais il ne peut pas affermir l'œuvre des mains auxquelles on n'a pas pensé. Psaume 128, 2. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Qui c'est qui prospère? Celui qui a pensé à une chose qu'il voulait, et il en a parlé à Dieu et il s'est mis au travail. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Ok. Mais qui se lève le matin pour aller travailler sans avoir pensé à ce qu'il allait faire? Vous imaginez quelqu'un qui sort de chez lui, met sa cravate, il prend sa voiture, puis il roule. Puis il dit, au fait, je vais où? Puis je vais faire quoi? Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Comment, qu'est-ce que vous pensez? Non. Un homme ou une femme qui se lève le matin pour aller travailler, il sait ce qu'il va faire. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Tu vois qu'il y a des puissances, des forces qui agissent en toi, comme le dit Éphésiens 3:20. Fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est ici qu'il y a tout ça. C'est ici qu'il y a de la pensée. C'est ici qu'on pense et qu'on travaille. C'est ici qu'on fait et c'est ici qu'on prospère. Et maintenant, il faut que vous compreniez bien que là, demain, on va sortir du confinement. Eh bien, c'est le moment de penser, si vous ne l'avez pas encore fait, de prier et de travailler. De faire. Ce que tu dois faire, pense que c'est pour Dieu que tu le fais. Le travail que tu cherches, pense que c'est pour Dieu que tu vas le faire. C'est écrit dans Colossiens 3, 23. Tout ce que tu fais, fais-le comme si c'était pour Dieu. Fais-le pour Dieu. Oh, mais quand je suis à l'usine puis que je lime mon bout de métal, là, c'est pas pour Dieu, hein. Si, c'est pour Dieu. Parce que chaque heure que tu passes là, c'est de l'argent qui tombe dans ta poche, c'est ton salaire, et avec ça, tu donnes ta dîme et tes offrandes, et ça va pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le avec bon cœur, sachant que c'est pour Dieu que tu le fais. Pense comme ça. Pense à tout ce que tu pourras faire quand tu seras exaucé. Et puis ensuite, prie pour être exaucé. Le secret de la prière exaucée, c'est la prière qu'on a préparée et mûrie dans nos pensées. Amen. Merci Jésus de bénir les paroles que j'ai dites ce matin. Que cela donne une moisson de miracles dans la vie des gens qui m'ont écouté. Autant que j'en ai eu dans ma vie, qu'ils puissent en avoir. Au nom de Jésus-Christ, et pour ta seule gloire dans le monde et dans l'Église, Amen et Amen. Au revoir mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse.